sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Alternantaises et alternantais, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Au sommaire de ce 16e numéro, je vous emmènerai en Équateur, au pays de la crevette industrielle, et dans la France de François Hollande, histoire de parler répression politique. Ensuite, je vous parlerai de deux livres. Le premier est un livre récent de très belle facture, dont l'auteur est un révolutionnaire allemand, Paul Frölich. Dans Impérialisme, guerre et lutte des classes en Allemagne, 1914-1918, Paul Frölich nous livre un témoignage remarquable sur cette période trouble qui vit, mais est-ce une surprise, la social-démocratie d'Outre-Rhin jeter au feu ses convictions internationalistes et, comme son homologue français, choisir l'Union sacrée. Le second ouvrage dont je vous parlerai est également un témoignage, celui du socialiste italien Pietro Neni, qui participa activement à la guerre civile espagnole. Son livre, « La guerre d'Espagne », inaugura la célèbre collection des cahiers libres aux éditions Maspero en l'an de grâce 1959. Après la revue de presse, je vous propose de retrouver votre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Au sommaire, deux sujets, la charte d'Amiens de 1906 et les bourses du travail. Il est évidemment fort désagréable de souiller son escarpin et sa basket avec de l'excrément de Pékinois abandonné là au beau milieu d'un trottoir. Quand je parle de Pékinois, je parle évidemment du chien et non du ressortissant de la capitale chinoise. Vous me direz que cette précision était inutile puisqu'il y a peu de chances qu'un ressortissant de l'Empire du Milieu ne dépose sa crotte à la vue de toutes et tous sur un trottoir français. Ouais, mais voilà, dès qu'il s'agit de Béziers, la ville de l'ineffable Robert Ménard, il vaut mieux être précis. L'ancien journaliste, défenseur de la veuve et de l'orphelin du temps de Reporters sans frontières, étant un obsessionnel du fichage ethnique. Est-il dans les habitudes chinoises de faire ses besoins dans la rue? Allez savoir. Et c'est peut-être en cela, d'ailleurs, que réside l'intérêt des statistiques. Mais bon, bref, passons. La dernière obsession de Robert Ménard ne concerne pas les nègres, les arabes, les voleurs de poules et autres pas blancs peuplant nos villes et nos campagnes, mais les cacas de canidés. Des chiens qui font là où ils veulent, au mépris des convenances. Je ne sais combien de personnes âgées glissent sur les étrons et se cassent le col du fémur, mais j'imagine qu'il doit y avoir un lien statistique entre cette constatation et le fait qu'à partir d'octobre prochain, tous les propriétaires de chiens du centre-ville seront tenus sous peine d'amende de faire ficher leur clébard. S'ils refusent, la douloureuse se montera à 38 euros. Grâce à un kit caca offert par la mairie, les vétérinaires pourront ainsi prélever de quoi déterminer l'ADN des toutous du centre-ville. Dans la foulée, une brigade spéciale sera chargée du ramassage des crottes et de la recherche du délinquant à poil normalement présent dans le fichier des clébards ADNisés. Il en coûtera 450 euros au propriétaire du chien, fiché ou non, reconnu coupable d'avoir fait son caca là où il ne le fallait pas. L'avenir dira si cette initiative forte aura pour conséquence une recrudescence des abandons de chiens dans le centre-ville de Béziers, une montée en flèche de la délation, voire même de terribles règlements de compte entre voisins. Imaginez qu'un bon citoyen ramasse les crottes de son chien, les jette dans une poubelle municipale, et qu'un de ses ennemis ou quelques plaisantins douteux ne l'en retire pour nuitamment la déposer au milieu d'un trottoir afin qu'elle soit ramassée, analysée par la brigade environnement. Tout cela dans le but d'incriminer un bon et honnête citoyen, qui ne pourra alors que plaider sa bonne foi, qu'exhiber les sacs à caca qu'il achète par paquet de 100 pour ramasser les troncs canins. Imaginez même qu'un groupe séditieux se décide à ramasser des crottes fraîches, hors de la zone concernée, pour venir les déposer en masse au cœur de la ville. La brigade environnement risquera ainsi de se retrouver submergée de cacas inconnus émanant de chiens non répertoriés, pour ne pas dire clandestins. Nouvelle donne vieille rengaine, l'actualité. Qu'est-ce qu'une mangrove ? C'est une formation végétale caractérisée par des forêts impénétrables de palétuviers qui fixent leurs fortes racines dans les baies aux eaux calmes où se déposent boue et limon. Au-delà de leur beauté, les mangroves sont utiles comme les haies de nos bocages qui servent d'abri pour la faune et protègent les terres du ravinement provoqué par les eaux pluviales. Lors du terrible tsunami de 2005, beaucoup de militants écologistes ont également rappelé que leur disparition avait facilité le travail destructeur de la mer. Mais la disparition des mangroves n'est pas seulement une catastrophe écologique, elle est également une catastrophe sociale. L'Équateur est un pays d'Amérique du Sud bordé au nord par la Colombie, à l'est et au sud par le Pérou et à l'ouest par l'océan Pacifique. On ne sait pas grand-chose sur ce pays sinon que les îles Galapagos, d'une incroyable biodiversité, sont sur son territoire. Guayaquil est surnommée la perle du Pacifique. Ville côtière, à la différence de la capitale, Quito, Guayaquil est l'une des places fortes mondiales de la production de crevettes industrielles, ces crevettes qui envahissent les étals de nos supermarchés et y sont vendues à vil prix. Pour produire en masse ces crustacés, il a fallu tout d'abord détruire les mangroves pour les remplacer par de gigantesques bassins. Là, les crevettes sont nourries par des farines animales ou d'autres cochonneries avant d'être pêchées, préparées, congelées et exportées. Mais ces crevettes ne sont pas seulement une catastrophe gustative et gastronomique. Car voyez-vous, avant qu'il n'y ait ces gigantesques élevages de crevettes, il y avait des mangroves. Avant qu'il y ait des prolétaires occupés à trier, décapiter et décortiquer les crustacés, il y avait des pêcheurs. Des pêcheurs en mer et des pêcheurs à pied, attrapant les crevettes au filet, retirant de la boue des mangroves, crabes et coquillages. Oh, ils vivaient chichement d'un travail souvent harassant, difficile, mais ils vivaient. La disparition des mangroves a été fatale pour beaucoup d'entre eux. Certains se sont fait prolétaires, d'autres ont gagné les bidonvilles de Guayaquil, d'autres sont 6 pieds sous terre. Tués par les gardes armés qui surveillent les bassins de crevettes pour éviter les vols. Eh oui, des gardes qui n'hésitent donc pas à tirer sur les pêcheurs qui s'approcheraient de trop près des 10 bassins pour y fouiller les mangroves attenantes. Des pêcheurs ou des voleurs, ou des pêcheurs voleurs. Précarisés, réduits à la misère par le développement de ces fermes aquacoles, certains pêcheurs franchissent le pas et s'adonnent au trafic de crevettes industrielles. Ainsi donc, en quelques années, l'industrie de la crevette sans goût aura détruit de façon irréversible des écosystèmes fragiles et, ce faisant, exposé des côtes aux possibles tourments de la mer. Elle aura aussi détruit des communautés humaines de pêcheurs, obligées de se prolétariser pour vivre, d'abandonner leurs terres pour les bidonvilles ou de se faire délinquants pour améliorer l'ordinaire. Ouais, vive le développement.
On parle beaucoup des quelques dizaines d'agités.
Nouvelle donne vieille rengaine.
Qui ne travaillent pas.
L'actualité.
Qui empêchent les autres de travailler.
Pauvre Hollande, pauvre Valls, pauvre Cazeneuve et par conséquence, pauvre de nous. Les jours passent et ils creusent, creusent, creusent. À la vitesse où ils vont, ils sont capables de toucher le fond avant l'été. Droit dans leurs bottes, ils nous promettent l'ordre, la sécurité et le progrès social avec CRS, CFDT et 49.3. Comme Hollande l'a déclaré récemment, « Trop de gouvernements ont cédé, d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances pas faciles, je cède dès lors qu'un compromis a été trouvé. » Il aurait été intéressant de savoir à quoi précisément notre bien-aimé président faisait allusion. À quelles occasions les précédents gouvernements ont-ils cédé sous la pression? Et quand ils l'ont fait, en quoi cela a-t-il été dommageable pour les travailleurs? Parce que, si ma mémoire ne me joue pas des tours, les trois grands mouvements sociaux antérieurs à 2012 furent la réforme des retraites initiée par François Fillon en 2003, le projet de contrat première embauche en 2006 et la seconde réforme des retraites de 2010. En 2003, Le gouvernement n'a pas reculé, de même qu'en 2010. En fait, il n'a reculé sous la pression de la rue qu'en 2006. Alors, à moins de penser que notre flambie nationale ne veuille remonter au calende grec, force est de constater qu'il semble sous-entendre que le gouvernement Chirac de Villepin a eu tort de céder à la jeunesse de l'époque, alors que le Parti socialiste de la même époque avait demandé le retrait immédiat et inconditionnel du CPE. comprenne qui pourra. La semaine passée, notre trio pathétique de socialistes modernes a décidé de taper fort en interdisant à quelques dizaines de militants de se joindre aux manifestations anti-loi travail au motif que c'est bien là que le bât blesse. On abolir et relire l'arrêté d'interdiction de séjour transmis à ces personnes, on ne sait pas trop ce que l'État reproche à la plupart d'entre eux, sinon d'avoir été présent ou d'avoir été repéré à l'occasion de manifs ayant dégénéré, ce qui, avouez-le, est le cas de milliers de personnes à travers la France, des jeunes et des moins jeunes. Le préfet de police de Paris, Michel Cadot, qui n'en est pas un, a ainsi écrit que ces personnes, je cite, « ont été remarquées à de nombreuses reprises lors de manifestations contre notamment les violences policières et le projet de réforme du Code du travail. Que ces manifestations ont parfois dégénéré, qu'il y a, dès lors, tout lieu de penser que la présence de Monsieur X au rassemblement organisé contre le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs vise à participer à des actions violentes. » Vous aurez noté en passant que notre préfet, spécialiste sans doute du droit du travail ou peut-être syndiqué à la CFDT, rappelle ce que l'immense majorité des Français n'a visiblement pas encore compris. La loi El Khomri va apporter de nouvelles libertés et de nouvelles protections à ces imbéciles de salariés et à ces jeunes boutonneux qui ne voient en elle qu'une régression sociale. Ouais. Passons. Le plus important à noter est bien que les personnes visées par ces interdictions ne sont coupables de rien, mais qu'elles pourraient finir par l'être puisque CQFD, leur présence à ces moments-là vise à participer à des actions violentes, du moins il y a tout lieu de le penser, nous dit le préfet. Cette bienveillance paternaliste a de quoi laisser pantois plus d'un juriste, non ? Pas étonnant donc que la justice ait remis tout cela en ordre, jugeant nulles les interdictions de manifester frappant 9 des 10 militants parisiens. En réponse, le préfet a promis de mieux rédiger à l'avenir ses arrêtés. Eh ouais, Hollande, Valls et Cazeneuve ont trouvé un nouvel ami pour creuser, creuser, creuser encore. Bah, sur ce, je vous abandonne avec cette pensée savoureuse de Pierre Dac qui, à n'en pas douter, mériterait pour cela de finir dans les fichiers de la maréchaussée. Une société sans police, c'est un soldat sans adjudant, un zoo sans grillage, une guillotine sans lame. La police, c'est le gasoil qui fait rouler la voiture de course, le ressort qui fait tourner la montre à quartz, la vaseline qui... bref, c'est primordial.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria, que llevará el pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria, que llevará el pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Impérialisme, guerre et lutte de classe en Allemagne, 1914-1918. Ce livre est le premier tome d'un triptyque qui ne vit malheureusement pas le jour. Écrit en 1924, il est l'œuvre de Paul Fröhlich, un militant révolutionnaire de premier plan, ami intime de Rosa Luxembourg, à laquelle, d'ailleurs, il consacra une biographie. Paul Frölich fait partie de ces socialistes allemands qui ne furent jamais dans la ligne de la direction du Parti social-démocrate, le SPD, parti qu'il a rejoint en 1903 à l'âge de 20 ans. Nul étonnement donc de le voir être l'un des animateurs de la forte minorité qui s'oppose à la politique d'appui à la guerre menée par cette formidable machine bureaucratique qu'était le SPD de l'époque. En une douzaine de chapitres, Paul Frölich évoque la politique de grandeur de l'Allemagne, sa volonté de disposer elle aussi d'un empire colonial, seule façon dans le monde bouleversé du début du XXe siècle d'être pris au sérieux. L'empire pouvait-il décemment laisser la France et l'Angleterre conquérir le monde? Évidemment pas. Les racines de la Première Guerre mondiale sont ici dans la volonté affichée de s'affirmer comme une puissance impériale, de se partager le monde en en prenant la meilleure part. « Regardez le monde tel qu'il était avant la guerre, nous dit Frölich. C'était un monde qui était fait pour la guerre, avec ses élites politiques et économiques qui voient dans la déflagration de quoi satisfaire leur orgueil national et remplir leurs poches. Mais il n'y a pas que la bourgeoisie à entonner l'hymne impérial la main sur le cœur. Le peuple sombre lui aussi dans le chauvinisme, d'autant plus que les socialistes allemands se rallient sans tarder à l'Empire. Comme l'écrit le ministère de la guerre le 31 juillet 1914, « De source sûre, le parti social-démocrate allemand a la ferme intention d'adopter l'attitude qui convient à tout Allemand dans les circonstances présentes. » Eh ouais, le SPD soutient donc le Kaiser, au nom bien sûr de la civilisation contre la barbarie tsariste, de la même façon que des socialistes français rallièrent l'Union sacrée au nom des valeurs universelles de 1789 contre le militarisme prussien et l'impérialisme, celui des autres, évidemment. Frölich livre ici des pages remarquables sur la dégénérescence du mouvement socialiste allemand, mais aussi syndical, tout comme sur la façon dont la société, et principalement la classe ouvrière, a subi le conflit. Entre 1914 et 1918, des millions d'hommes sont morts au champ d'horreur, pendant que des millions d'autres souffraient dans les bagnes industrielles qui tournaient à plein régime à l'arrière pour nourrir la grande boucherie. Frölich parle longuement de la mise en esclavage de ces hommes et de ces femmes, survivant avec des salaires de misère et des rations de famine, tandis que le lobby militaro-industriel garnissait ses poches en vendant cher à l'État les armes de mort indispensables à la poursuite de la guerre. Bien peu de socialistes osèrent aller à contre-courant. Liebknecht et Ruhle furent de ceux-là, Frölich également, et d'autres encore plus anonymes, qui payèrent de quelques années d'enfermement leur opposition à la guerre. Il faut attendre 1917 pour que le consensus nationaliste se fissure. La guerre, enlisée depuis bien longtemps, entre dans une nouvelle phase avec l'intervention américaine. Le tsar n'est plus, les émeutes de la faim et les grèves secouent une Allemagne à l'agonie. Qu'importe. Sur les décombres d'un empire agonisant, la social-démocratie déclare encore « Parmi tous les peuples qui sont touchés par cette guerre, le peuple allemand est celui qui a le moins de raisons de désespérer. On voit désormais qu'il n'y a pas d'autre solution aux troubles mondiaux que la victoire totale promise de l'Allemagne, également à l'Ouest. » Bobard, répond Frölich, bobard. Nous sommes alors en avril 1918, six mois plus tard, dans la plupart des grandes villes allemandes, le prolétariat forme des conseils ouvriers, cesse de travailler, fait s'effondrer l'Empire et advenir une république que certains veulent rouge. Sauf la social-démocratie qui choisira là encore la réaction plutôt que la révolution, c'est-à-dire sa survie en tant qu'appareil d'encadrement des masses. Mais ceci est une autre histoire. Inédit en français, ce témoignage avait pour but, dit l'auteur, de transmettre aux travailleurs tout ce qu'ils devaient savoir sur la guerre. Le but a été atteint. Merci donc aux éditions Sciences Marxistes d'avoir rendu accessible au public francophone ce témoignage remarquable. Je vous rappelle le titre de ce livre, « Impérialisme, guerre et lutte de classe en Allemagne 1914-1918 », l'auteur Paul Frölich, l'éditeur éditions Sciences Marxistes, publié en 2014.
Lolo.
En haut à gauche, derrière le bibelot,
quando ti ricoverano,
exhumation.
Porta le armi.
Pietro Nenni fut l'un des leaders du socialisme italien, exilé en France pour échapper au fascisme. En 1936, il se rend en Espagne pour soutenir le gouvernement républicain qui fait face à la sédition d'une large fraction de l'armée soutenue par Hitler et Mussolini. En 1959, les toutes jeunes éditions Maspero proposaient enfin au public francophone un ensemble de ses textes écrits durant cette période tumultueuse. La guerre d'Espagne, recueil d'articles, d'interventions, de congrès et de témoignages, inaugurait même sa collection Cahiers libres, appelée Un très bel avenir. Ce livre comprend trois parties. La première est un long article inédit intitulé « Le drame de la non-intervention ». La seconde est son témoignage de militants sur le front. La dernière rassemble des textes réunis sous l'intitulé suivant « Le rôle des socialistes dans la guerre d'Espagne ». Des espoirs de 1936 au drame de 1939, Nenni n'a eu de cesse de se battre pour que les démocraties occidentales renoncent à leur politique de non-intervention et viennent en aide à la jeune démocratie espagnole. La position de Neni est claire. Il faut défendre le gouvernement de Front Populaire parce que celui-ci tire sa légitimité des urnes. Il est donc légitime et légal. Il faut lui donner les moyens militaires de se battre contre les factieux soutenus massivement par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. La neutralité, la non-intervention est à ce titre encore moins compréhensible. Pour Neni, ce qui se joue en Espagne est l'avenir de la démocratie européenne. C'est pourquoi il met l'accent sur la nécessité de gagner la guerre avant tout, de rassembler largement autour du gouvernement légal les classes moyennes et petites bourgeoises. C'est pourquoi il attaque avec virulence les anarchistes espagnols qui refusent la militarisation des milices ouvrières, qui parlent de révolution au lieu de se cantonner à l'antifascisme démocratique, qui font même le jeu des fascistes en mai 37 en déstabilisant le gouvernement. Il ne dit rien ou presque des entreprises collectivisées, des expériences autogestionnaires dans les campagnes aragonaises. Pour lui, l'Espagne est, je cite, « un pays où l'esprit anarchisant est la forme prolétarienne de l'individualisme petit bourgeois ». Neni n'aime les anarchistes que lorsqu'ils se font ministres et se taisent. Il célèbre leur héroïsme et fustige leur romantisme. Il est très proche des positions des communistes espagnols. Oui à la République bourgeoise, non socialisme. Pour lui, n'existe que le front. Sous sa plume, vous ne trouverez nulle critique du gouvernement, notamment de celui de Juan Negrín, qui fut pour beaucoup l'homme de paille des soviétiques. Nulle critique du soutien soviétique. Pour lui, ce qu'il manque à l'Espagne, c'est un État fort qui sache se faire respecter, y compris par la manière forte. Il se désole de l'immaturité du peuple espagnol, de son indiscipline. Il se désole de la position de Blum, accroché au basque de Chamberlain, partisan d'une politique de capitulation qui n'a abouti qu'à une trahison éclatante de la démocratie et de la paix. Il se désole de l'inefficacité totale de la Société des Nations. Il se désole parce qu'il pressent qu'une défaite en Espagne des forces démocratiques ne pourra que précipiter un deuxième désastre mondial. Il se désole, mais refuse de capituler. Alors que les fascistes se sont rendus maîtres de la Catalogne, qu'une foule immense se presse à la frontière française, Pietro Neni écrit « Tant qu'il reste de la volonté, il reste encore plus que la simple espérance, l'espoir de la revanche. Hein, » mais de revanche, il n'y eut pas. Allez donc fouiller dans quelques médiathèques, vous y trouverez peut-être Pietro Neni, la guerre d'Espagne, édité par Maspero en 1959.
El ejército del Ebro rumba la rumba la rumbam bam. El ejército del Ebro rumba la rumbam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela. Y a las tropas invasoras rumba la rumbam bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumbam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, buena paliza les dio, ay Carmela, ay, ni naciones ni banderas, rumba la rumbam bam, ni naciones ni banderas, rumba la rumbam bam, ni trapitos de colores, ay Carmela, ni trapitos de colores, ay Carmela. Ningún lobo de la sierra, rumba la rumba la rumbam bam. Ningún lobo de la sierra, rumba la rumbam bam. Se dice sierra teniente, ay Carmela, se dice sierra teniente, ay Carmela, ay. A la mierda al matrimonio, rumba la rumbam bam. A la mierda al matrimonio, rumba la rumbam bam. Que nadie es dueño de nadie, ay Carmela, nadie es dueño de nadie, ay Carmela,
nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Nouvelle donne, vieille rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture hebdomadaire de l'excellent courrier international qui regorge d'informations sur ce qui se passe au-delà de l'Hexagone, j'ai lu un certain nombre de journaux et de revues ces derniers temps. Courant alternatif, le mensuel de l'organisation communiste libertaire appelle dans son numéro 260, paru en ce mois de mai, à la convergence des luttes, une convergence à bâtir à la base, au plus près du terrain, sans attendre, of course, aucun blanc-seing des appareils politiques ou syndicaux. Au sommaire de ce numéro, des articles sur la loi El Khomri et ses alter-ego anglais et allemands, les violences policières ou encore la grève générale qui a secoué Mayotte. Le journal vous emmène également à Calais, auprès des migrants, cherchant désespérément à gagner la terre promise britannique, et vous livre son sentiment sur l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie pour sous-traiter à cette dernière les flots de réfugiés politiques syriens ou irakiens qui viennent y chercher refuge. Au sommaire également, l'article rituel sur l'évolution du conflit de Notre-Dame-des-Landes, un autre sur la pédagogie revisitée par quelques faunés du patronat dans le nord de la France, un point sur Linky et Gaspard, les nouveaux compteurs gaz et électricité intelligents, d'excitent les promoteurs, intelligence dont il faudra par précaution se méfier. Enfin, les pages internationales nous informent sur la situation politique en Espagne avec le phénomène Podemos qui risque de faire oublier que se déroulent toujours à la base de nombreuses luttes sociales, notamment contre les expulsions de logements. Également, un nouveau point sur la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, une campagne qui a pour but de dénoncer la politique coloniale de l'État d'Israël et son exploitation économique des territoires palestiniens. L'excellente revue Moyen-Orient consacre son numéro 30 à la politique moyen-orientale de la Russie poutinienne. Au sommaire, des articles sur les relations de la Russie avec l'Iran des Mollahs, l'Égypte des militaires ou la monarchie des Saouds. Un article de Julia Lerner s'intéresse également à la très forte communauté juive russe installée en Israël. Outre ce dossier, vous pourrez découvrir le regard d'une romancière tunisienne sur la situation de son pays 5 ans après la dite révolution, la situation de la jeunesse palestinienne de Ramallah, l'ambiance lourde qui a envahi depuis quelque temps Diyarbakir au cœur du Kurdistan turc, le poids du salafisme en France ou encore les relations extrêmement tendues entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour l'hégémonie régionale. Enfin, j'ai reçu ces derniers jours le tout dernier numéro de l'excellente revue Alternative Sud, un numéro spécial consacré à un débat important sur l'intérêt de parler encore aujourd'hui de pays du Nord et de pays du Sud, division qui aurait perdu toute pertinence avec la mondialisation capitaliste, l'émergence de nouvelles puissances économiques issues du Sud. Bonne lecture. Capitalisme, individus et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Que la CGT du début du XXe siècle soit dominée par les syndicalistes révolutionnaires de culture anarchiste ne doit pas sous-entendre que les minoritaires, réformistes, partisans par exemple du combat politique, en sont réduits à se taire et à subir. À chaque congrès, les deux conceptions s'affrontent. La majorité proclame que le syndicalisme se suffit à lui-même parce qu'il est révolutionnaire. La minorité répond que le syndicalisme a un allié naturel qui s'appelle le Parti Socialiste, quand bien même celui-ci est éclaté en une poignée de formations rivales, qui seront bientôt regroupées en deux forces, l'une modérée, s'incarnant dans le Parti Socialiste français autour de Jean Jaurès, l'autre plus radicale, s'incarnant dans le Parti Socialiste de France de Jules Guesde. Tout change en 1905 quand les deux formations s'unissent et donnent naissance au Parti Socialiste, section française de l'Internationale Ouvrière, la SFIO. L'Internationale ouvrière dont il est question ici est née en 1889 à l'instigation de Friedrich Engels. Sa jeunesse fut tumultueuse puisqu'en 1989, année de sa création, chaque tendance socialiste avait organisé son propre congrès, l'un à Paris, l'autre à Bruxelles. Ces deux tendances avaient cependant un point commun. Elles entendaient ne regrouper que les partis socialistes partisans des joutes électorales. Le point de vue libertaire fut très durement combattu et les anarchistes furent officiellement exclus lors du congrès de Londres de 1896. Jusqu'en 1905, les syndicalistes révolutionnaires pouvaient se moquer des querelles socialistes, de leur guerre de chapelle. La création de la SFIO change la donne et pousse la CGT, lors de son congrès confédéral d'Amiens en 1906, à préciser sa doctrine à travers une charte dont encore aujourd'hui quelques forces syndicales se réclament. Écoutez plutôt. La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression tant matérielle que morale mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. D'une part, il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. D'autre part, il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition base de la réorganisation sociale. Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d'avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions, leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. En ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer, en dehors du groupement corporatif, à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu'afin que le syndicalisme atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale.
Cos'è sto muro? Un muro! Il muro! Giù! Giù!
Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Il est une institution ouvrière fondamentale pour qui veut comprendre le mouvement ouvrier français d'avant 1914, les bourses du travail. Permettre à la classe ouvrière de disposer de façon permanente d'un lieu pour se rencontrer est une vieille revendication du mouvement ouvrier. La première bourse voit le jour en 1887 à Paris. Et 5 ans plus tard, une fédération des bourses du travail coordonne l'ensemble des bourses du travail du territoire national, soit environ une centaine. Elle aura sa tête à partir de 1895 et jusqu'à son décès en 1901, Fernand Pelloutier, un ancien socialiste devenu anarchiste. Dire ce que fut une bourse est délicat car elles connurent toutes des fortunes diverses. Alors que certaines s'appuyaient sur des corporations ouvrières solides et offensives, d'autres vivotaient dans un univers de petite industrie moins propice à la syndicalisation. Dire ce que fut une bourse revient à faire le portrait de la bourse idéale, telle que Fernand Pelloutier l'a envisagée. Dans ce cadre-là, une bourse du travail idéale se doit de remplir plusieurs fonctions. La première, fondamentale, est qu'elle permet que se nouent des liens entre les différentes organisations ouvrières d'un même territoire, qu'émergent ainsi des solidarités interprofessionnelles concrètes. Grâce à la bourse, écrit Pelloutier, les syndicats pourraient s'unir d'abord par professions similaires pour la garde et la défense de leurs intérêts professionnels, comparés avec les ressources particulières de leur industrie, la durée de leur labeur et le taux de leur salaire, et, si cette durée était excessive, si ce taux était dérisoire, rechercher de combien une suspension de travail augmenterait la valeur de leur force productrice. Ils pourraient, d'autre part, se fédérer sans distinction de métier pour réfléchir sur leurs conditions, dégager les données générales du problème économique, étudier le mécanisme des échanges, bref, chercher dans le système social actuel les éléments d'un système nouveau et en même temps éviter les efforts incohérents faits jusqu'à ce jour et qui auraient fini par livrer les travailleurs désarmés à la puissance politique, financière et morale du capital. La Bourse du Travail offre également des services aux ouvriers. Elle fonctionne ainsi comme une agence pour l'emploi, indiquant que telle ou telle entreprise recherche tel ou tel travailleur, et versant même un petit pécule à l'ouvrier qui doit voyager pour postuler à un emploi. Elle cherche donc à faire concurrence aux marchands d'hommes, aux négriers, ces placeurs qui mettent en relation entrepreneurs et travailleurs et empochent pour se faire une forte commission. Elle possède une bibliothèque généraliste, politique et technique. Elle dispense des cours professionnels, des conférences économiques, scientifiques et techniques. Elle est aussi un outil éminemment politique pour lutter contre le puissant Parti ouvrier français de Jules Guesde. Fédérer les bourses du travail était un moyen, en fait, de concurrencer le Parti ouvrier français qui, au tout début des années 90, semblait contrôler le mouvement syndical. Une bourse idéale, c'est tout cela, et plus encore. Elle est l'outil à partir duquel, une fois le capitalisme vaincu, une fois l'État abattu, une société sans classe ni État, autrement dit sans domination politique et sociale, va pouvoir s'organiser. Une bourse idéale met en avant la maturité de la classe ouvrière, sa capacité à prendre en main le destin d'un territoire. Bien évidemment, tout cela, c'est de la théorie. Tout d'abord, rares sont les bourses du travail à avoir été tenues par des militants anarchistes partageant les convictions profondes de Fernand Pelloutier. Bon, la plupart du temps, s'est établi un modus vivendi entre anarchistes et socialistes pour faire vivre les bourses, comme un outil non idéologique au service de la classe ouvrière et comme un espace favorisant le développement de la conscience de classe. Certains soulignent ensuite avec raison que sans le soutien des municipalités, les bourses n'auraient pu exister, prospérer ou vivoter. Ce sont les mairies qui octroient des locaux, un bâtiment vaste ou un simple bureau. Ce sont les mairies qui subventionnent les activités culturelles et éducatives des bourses et veillent par exemple à ce que les cours dispensés en ces lieux concernent le travail et uniquement le travail. Point de vue à pondérer cependant, les militants ouvriers n'étaient pas tenus par les subventions et quand celles-ci venaient à manquer, ils savaient faire sans. La seule chose véritablement aliénante pour eux résidait dans leur statut inévitablement précaire de locataire. Les bourses du travail ne furent donc pas, strictement parlant, un outil indépendant d'une classe ouvrière autonome faisant face à son ennemi, l'État capitaliste, un outil préservant même l'élite ouvrière de toute intégration dans les rouages de la démocratie bourgeoise, antithèse donc de la stratégie politique socialiste réformiste qui promet la transformation sociale par la voie parlementaire et donc l'intégration des classes populaires dans le jeu démocratique. Les bourses furent le produit d'un rapport de force multiple. Un mouvement ouvrier de plus en plus fort et revendicatif, un pouvoir politique cherchant à le canaliser autrement que par l'emploi de la force, des forces politiques révolutionnaires se déchirant pour savoir quel était le meilleur chemin vers le socialisme, les urnes ou la révolution. Pour l'anecdote, sachez qu'un économiste libéral belge, aujourd'hui oublié, Gustave de Molinari, avait eu l'idée de fonder des bourses du travail dans les années 1840-1850. Évidemment, la volonté de Gustave de Molinari n'était pas d'émanciper les travailleurs, d'abattre le capitalisme, de prendre d'assaut l'État. Pour Gustave de Molinari, les bourses du travail doivent être des outils permettant à la main-d'œuvre d'aller et venir là où le travail le commande. « Si l'ouvrier peut voyager rapidement et à très bas prix, dit-il, il n'hésitera pas certainement à se déplacer lorsque le travail viendra à lui manquer dans l'endroit où il demeure. » De Molinari conçoit les bourses comme des lieux dans lesquels entrepreneurs et travailleurs se rencontrent, les uns pour vendre, les autres pour acheter du travail, car le travail, ne l'oublions pas, est une marchandise comme une autre. Et si elle est une marchandise comme une autre, il revient au marché, à la loi de l'offre et de la demande, de fixer son prix. Les bourses du travail seraient pour les travailleurs ce que les bourses actuelles sont pour les opérations des capitalistes. Grâce au télégraphe, de Molinari imaginera ainsi une cotation quotidienne du travail humain. Écoutez-le. « Nous voulons recueillir d'une manière régulière tous les renseignements sur les taux des salaires, l'offre et la demande des bras. Nous voulons indiquer aux entrepreneurs où ils peuvent trouver des ouvriers, aux ouvriers où ils peuvent trouver du travail. » Nous voulons créer pour la classe ouvrière une véritable bourse où le cours des différentes sortes de travail sera coté, comme le cours des marchandises, des fonds publics et des valeurs industrielles est coté dans les bourses ordinaires. Voilà. C'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine, à bientôt sur Alternante FM.